Seigneur, nous le répétons, mais nous en sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes, c'est vraiment un privilège que d'avoir ta parole à notre disposition et de pouvoir y plonger les regards quand nous le voulons et de nous laisser renseigner par toi. Seigneur, nous voulons consacrer ce temps à écouter ta parole, à apprendre de toi et nous te demandons de bénir ces moments ici et dans toutes les églises où on annonce ta parole en ce moment. En ton nom. Amen. Il arrive que la Bible contienne des affirmations contradictoires. Je vous lis rapidement deux versets dans le livre des Proverbes, ce ne sera pas le sujet de la prédication ce matin, mais pour vous dire un peu le chemin suivi. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles lui-même. » Donc je répète, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne le ressembles lui-même. » Et le verset d'après, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » J'ai choisi ce passage parce que les contradictions sont l'une en-dessus de l'autre, on ne peut pas passer à côté. Et je pense que cette contradiction, elle est voulue. On n'a pas laissé ça comme ça dans le texte par hasard. Donc, elle a pour but de nous faire réfléchir, de nous interroger. Et ce matin, je vous propose, un peu dans le même esprit, de réfléchir sur deux pensées qui peuvent paraître contradictoires. Deux versets qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Le premier nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et un peu plus loin, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. » Deux commandements. Le premier, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le deuxième, le craindre. Je ne sais pas comment vous lisez ces choses-là. Moi, ça me paraît un peu contradictoire. Comment est-ce qu'on peut aimer et craindre à la fois? Si on aime une personne, on recherche sa compagnie. On se laisse découvrir petit à petit tel qu'on est. On laisse apparaître notre véritable personnalité. On lui fait confiance. On essaie d'établir avec elle des liens durables et solides. Si au contraire on craint une personne, on va plutôt chercher à l'éviter, à garder nos distances, à se montrer réservé, à ne pas trop se dévoiler au cas où on divulguerait des faiblesses que la personne pourrait exploiter à nos dépens. On reste méfiant sur nos gardes, on se tient à distance, on dresse des barrières. Deux attitudes contradictoires. L'amour est un sentiment qui rapproche, qui unit, la crainte est plutôt un sentiment qui sépare, qui maintient une distance entre deux êtres. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans 1 Jean, la crainte n'est pas dans l'amour. Comment Dieu peut-il nous demander à la fois de l'aimer et de le craindre? Pourquoi nous demande-t-il ça? Alors je vous propose une réflexion en 5 temps. Donc ça ne sera pas parfait, hein, je n'ai pas atteint le chiffre 7. La première question est purement rhétorique. Dieu nous demande-t-il vraiment de le craindre? Ben oui, c'est écrit là. Mais qu'est-ce que ça signifie, craindre Dieu? Et est-ce que c'est contradictoire avec le premier verset, aimer Dieu? Troisième point, quels sont les fruits de la crainte de Dieu? Quatrième point, est-ce que nous avons des exemples dans la Bible d'hommes qui ont vécu dans la crainte de Dieu? Et dernier point, comment est-ce qu'on pourra mettre en pratique ce que nous aurons lu? Dieu nous demande-t-il vraiment de le craindre? Ah oui, on a un premier verset qui nous le dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Et au cas où on n'aurait pas compris, c'est repris, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Dans Malachie, on trouve aussi « Un fils honore son père et un serviteur son maître, et c'est Dieu qui parle. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Alors vous me direz « Oui, mais Philippe, toutes tes citations viennent de l'Ancien Testament. C'était le régime de la loi. Il fallait craindre la loi de Dieu parce qu'il y avait un châtiment qui était prévu derrière. Aujourd'hui, on est sous le régime de la grâce. Et la bonne nouvelle, c'est l'amour, c'est l'annonce de l'amour de Dieu pour nous. C'est vrai. Et pourtant, on trouve aussi des exhortations à vivre dans la crainte du Seigneur, par exemple dans l'enseignement de Paul. Je vous ferai deux citations simplement. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Deuxième épître aux Corinthiens. Ou dans Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Pour moi, il n'y a pas de doute, Dieu nous demande bien de le craindre, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir peur de lui. Et c'est ce que nous allons voir dans le deuxième point. Qu'est-ce qu'on peut appeler la crainte de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, comme le disait Guy, quand on est retraité, on a un peu plus de temps. Donc, je suis allé regarder dans différents versets quel était le mot hébreu ou grec. Alors, je travaille sur le dictionnaire, mais je ne parle pas ces langues. Je veux dire, donc, je ne prétends pas avoir fait un examen approfondi. Mais quels sont les termes qui sont utilisés pour parler de la crainte de Dieu? Alors, j'ai découvert qu'il y en a plusieurs. Le premier, dans les deux versets du Deutéronome que vous avez trouvé, c'est « Yare », que l'on retrouve dans d'autres textes, où il a été utilisé pour traduire le sentiment éprouvé par Adam, par exemple, lorsqu'il découvre qu'il est nu. Par Sarah aussi, après avoir ri de l'annonce de sa grossesse à venir. Par Abimélec, lorsqu'il découvre qu'Abraham n'est pas le frère de Sarah, mais sa femme. Il lui dit « Mais regarde ce que tu as failli nous faire faire ». Par Jacob aussi, après sa vision de l'échelle, où il dit « Mais certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas ». Les frères de Joseph aussi, quand Joseph les fait amener dans sa maison, et ils craignent que ce soit pour se venger. Dans ces différentes situations, la crainte désigne ici le sentiment de celui qui se sent coupable, Adam, qui a peur d'avoir manqué de respect, Abimélec ou Jacob, qui a peur d'avoir commis une faute, les frères de Joseph. En ce sens-là, la crainte de Dieu, c'est la peur d'avoir offensé, c'est la peur d'avoir péché. Et oui, on peut craindre Dieu dans ce sens-là. Le terme qui était dans Malachie, lui, c'est un autre mot hébreu, c'est « maora ». Dans d'autres versets, il est traduit par « prodige de terreur, frayeur, épouvante ». C'est donc un mot qui traduit une émotion bien plus forte que la précédente. Alors rappelons rapidement le contexte du livre de Malachie. La ville de Jérusalem et le temple ont été reconstruits depuis presque un siècle après l'exil. Le peuple est revenu, ça fait pratiquement un siècle. Mais le peuple s'est relâché dans le culte de son Dieu. Et voyons ce que Dieu reproche à Israël quand il leur dit « Mais où est la crainte qu'on a de moi ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» Mais c'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur, tu verras s'il te recevra bien, dit l'Éternel des armées. Ce que Dieu reproche à Israël ici, c'est de faire des offrandes à moindre prix, de piètre qualité, de ne pas donner le meilleur, mais de garder le meilleur pour lui. Je pense qu'on peut étendre les offrandes à beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que les offrandes au temple qui sont concernées ici. Il y a tout ce qu'on peut vouloir offrir à Dieu. La lecture continue ainsi. Vous dites « Quelle fatigue !» Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains ? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ici, Dieu reproche à l'Éternel, pardon, à Israël, de ne pas reconnaître sa grandeur, sa majesté, de ne pas lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Et puis il y a un troisième mot, un mot d'origine grecque cette fois-ci, phobos, qui a donné phobie. Hein, il y a toute une famille de mots en français qui déclinent ça. C'est le terme qui était utilisé dans les deux versets du Nouveau Testament que j'avais cité. Dans les évangiles, il qualifie souvent la réaction des témoins d'un phénomène surnaturel. C'est le mot qui est employé pour décrire l'attitude des apôtres quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ou quand il a ordonné au vent de cesser, quand ils ont vu un ange, quand ils ont assisté à une résurrection. Le sentiment qu'ils éprouvent, c'est phobos. Mais phobos a aussi un sens assez différent, encore plus fort peut-être, qui qualifie la réaction des témoins de la mort d'Ananias et de sa femme. Vous imaginez ? Vous êtes témoin d'une scène comme ça, et paf, vous voyez le jugement de Dieu s'exercer instantanément. Les événements de la fin des temps aussi, qui sont rapportés dans l'Apocalypse, traduit donc une grande frayeur. Mais il a aussi un sens très différent, dans l'épître de Pierre, par exemple, où, je lis les deux premiers versets, « Femmes, soyez soumises de même à vos maris » Attention, on ne parle pas de violence conjugale et de peur ici. Hein, « Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Et le mot qui a été traduit par « réservée », c'est « phobos ». Un peu plus loin, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, cette fois-ci, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Le mot qui a été traduit par « crainte » ici est remplacé par « respect ». Alors si on fait un premier point pour essayer de cerner le sens de ce mot « crainte », il peut désigner le sentiment de celui qui craint d'avoir péché, la frayeur de ce que devrait éprouver celui qui s'est montré négligent et qui a manqué de respect vis-à-vis de Dieu, ou le respect dû à la parole de Dieu. Est-ce que c'est incompatible avec l'amour de Dieu ? Bien sûr que non. Regardez ces deux versets, je vais vous laisser le temps de les lire à votre rythme, pour regarder si d'après vous, ces deux textes qui contiennent l'un le mot aimer et l'autre craindre, ils se contredisent ou au contraire ils sont parallèles. Je vous laisse le temps. Le premier nous parle de craindre Dieu, le second de l'aimer, mais vous voyez que dans les deux versets, il est question de suivre Dieu, de mettre en pratique ses commandements et d'obéir. Pour moi, ces deux versets, ils ne s'opposent pas, c'est deux déclinaisons d'une même vérité. Quoi ça vous fait penser, cette image ? C'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï où le peuple est massé au pied de la montagne avec interdiction de s'approcher. Que s'est-il passé au mont Sinaï ? Moïse est allé à la rencontre de Dieu et le peuple avait l'interdiction de s'approcher sous peine de mort. Après que Moïse eut révélé aux Israélites les commandements de Dieu, on peut lire dans Exode 20, « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante, et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Si la montagne fumait comme ça, effectivement, il y avait de quoi être impressionné. Il y avait même des éclairs et tout, on le disait. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Mais Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Il n'est plus parlé de peur et de terreur, il est parlé de crainte ici. La peur poussait le peuple à fuir la présence de Dieu, alors que le but poursuivi par Dieu était de leur éviter de pécher. Et nous en arrivons donc au troisième point, quels sont les fruits de la crainte de Dieu ? Alors, j'espère ne pas vous lasser avec l'énumération de versets que je fais là, je vais faire là, mais je me suis dit que la parole parle d'elle-même, on n'a pas vraiment besoin de la commenter. Première lecture dans un psaume. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel est source de bénédiction et de prospérité. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. La crainte de l'Éternel aide à rester humble. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse, suivant les traductions. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. La crainte de l'Éternel est source de sagesse, de vie. C'est même quelquefois l'occasion de discerner la volonté de Dieu. Si vous êtes devant un choix, eh bien, demandez humblement à Dieu son avis, en s'attendant à sa réponse, ça peut être le bon chemin. Et ce qui est vrai sur le plan individuel, on voit que c'est vrai aussi sur le plan collectif, puisqu'il nous est dit dans Actes 9, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu a permis à l'Église primitive de s'édifier et de croître. » A contrario, qu'est-ce qui est promis à ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel ? On peut lire dans l'Épître aux Romains, « La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Ou alors, « Ils m'appelleront et je ne répondrai pas, dit l'Éternel. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. » Une parenthèse au passage, tous ces reproches qui sont faits, c'est aussi, d'une certaine façon, un manque de crainte. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Dieu se détourne de celui qui ne le craint pas. Il nous est dit qu'il ne lui répond pas. Il le laisse se débrouiller seul. Craindre Dieu, c'est être à son écoute. C'est prendre au sérieux ses enseignements, ses avertissements. Ne pas se croire autosuffisant, mais demeurer humble et soumis au Créateur. Est-ce que nous avons dans la Bible des exemples d'hommes ayant vécu dans la crainte de Dieu ? Si je vous demandais de citer des personnages bibliques qui vous viennent à l'esprit quand on parle de la crainte de Dieu, n'y a pas que les enfants qui travaillent hein, dimanche matin. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent ? Abraham, David, Job, Melchisédek. Peut-être, là j'aurais envie d'aller relire la crainte de Dieu, Melchisédek. Je n'avais pas pensé à lui, mais bon. Enoch. Daniel. On voit bien à quel moment lui, il a dû craindre Dieu, oui. Joseph. Je n'ai pas bien compris. Les compagnons de Daniel, oui. Élie, alors vous en avez cité que je n'avais pas préparé, mais les sages-femmes juives, Corneille, Lydie, Paul. Mais, bon, je le dis sur la plaisanterie, mais honte à vous, regardez. Ésaïe 11, versets 2 à 3, ça m'a frappé au cours de la préparation de ce message. Je n'avais jamais vraiment relevé ce passage-là. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. De qui on parle ? On parle du Messie, on parle de Jésus. Jésus respirait la crainte de l'Éternel. On est loin de l'image du mont Sinaï. Durant tout son ministère sur terre, Jésus fut l'exemple de l'obéissance, de la soumission, de l'amour de son Père. Il n'y avait pas, humainement on a envie de dire, il n'y avait pas de crainte en Jésus de son Père. Et pourtant ce verset nous dit, il respirera la crainte de l'Éternel. La seule fois où Jésus a eu peur, il nous a dit, c'est juste avant la crucifixion. Lui qui n'avait point connu le péché, il a été fait péché. Il ne pouvait rien lui arriver de pire. Mais Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Et j'étais un peu malhonnête quand je vous ai cité le début du verset de 1 Jean 4, 18. J'ai dit « la crainte n'est pas dans l'amour », mais je savais que je lirais le verset en entier. « Mais l'amour parfait bannit la crainte ». Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Or, nous savons bien que notre amour pour Dieu n'est pas parfait. Et là, je me dis qu'on a peut-être une explication. Parce que nous aimons Dieu imparfaitement, il est bon pour nous de le craindre encore. La crainte de Dieu, ce ne serait donc pas l'objectif final, mais un stade intermédiaire, un moyen pour parvenir à l'objectif final, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Alors, comment mettre en pratique ce que nous avons vu ? Il n'est pas question de dresser une liste des choses à faire ou de ne pas faire, ça serait forcément incomplet, arbitraire et pas forcément adapté à chacun. J'ai préféré retenir deux idées. On dit que c'est à peu près ce qu'on est capable de retenir d'un message. Craindre Dieu plutôt que les hommes. Souvent, nos comportements sont dictés par la crainte des autres, le conformisme, la pression du monde, par crainte de déplaire, de susciter l'hostilité. Si par contre, on a la crainte de Dieu, cela peut nous aider à prendre les bonnes décisions, celles qui plairont à Dieu. Je m'appuie sur un verset de Matthieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ce qu'ont fait les sages-femmes des Hébreux. Elles ont préféré désobéir à l'ordre de Pharaon de tuer tous les garçons nouveau-nés. Et il est dit en Exode 1:20, Dieu fit du bien aux sages-femmes. C'est également ce qu'ont fait Pierre et les apôtres face au Sanhédrin. Dans Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et vous savez la conséquence, c'est qu'après avoir tenu ces propos, eh bien Dieu a fait intervenir Gamaliel, qui a conseillé au Sanhédrin de dire « Mais ne prenez pas le risque de vous opposer à Dieu. Si ces gens ne sont pas envoyés par Dieu, ça s'éteindra tout seul. Mais s'ils sont envoyés par Dieu, eh bien vous aurez combattu Dieu. Ne prenez pas ce risque. Et j'ai été frappé de me dire, ben, quand ils ont fait cette déclaration, eh bien Dieu a suscité derrière le propos de Gamaliel. Non pas que toutes les prises de position nous évitent les ennuis prévisibles, mais on peut aussi se dire que Dieu veille sur ceux qui le craignent. Et puis, par rapport aux reproches que Dieu avait fait dans Malachie, on pourrait dire aussi accorder à Dieu tout le respect qu'il mérite. Et je vous citerai juste une anecdote qui remonte à il y a très longtemps maintenant, c'était à la fin des années 80. Pendant un mouvement lycéen, il s'est avéré qu'un des élèves de mon lycée a fait partie de la coordination lycéenne qui est montée à Paris pour présenter leurs revendications. Et ils ont obtenu ce que les professeurs n'avaient pas obtenu, un entretien avec le président de la République. Alors vous imaginez, pour prendre une comparaison qui n'est peut-être pas tout forcément juste, mais ils sont entrés dans le sein des saints, quoi, au cœur du pouvoir, reçus à l'Élysée par François Mitterrand lui-même. Et donc ils sont entrés et ils ont balancé tous leurs griefs. Et on a lu dans la presse que très vite, un conseiller du président est intervenu, ils ont dit, attendez, on va mettre les règles du jeu au point. Vous avez en face de vous le président de la République française. C'est pas comme ça qu'on lui parle. Donc on va recommencer autrement, un à la fois, etc. Alors je dis pas qu'on s'adresse à Dieu sur un ton revendicatif, etc. Mais est-ce qu'à force d'entendre des messages qui nous disent à juste titre que Dieu est amour, etc., on n'est pas de temps en temps dans cet esprit de parler à Dieu un peu comme un pote? Je ne dis pas qu'on le fait, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose? Je me rappelle d'avoir été choqué une fois, mais c'était un jeune, je veux dire, mais où quelqu'un lui faisait remarquer en disant, mais tu vois comme tu parles de Dieu, oh t'inquiète, je m'arrange avec lui. Bon, il avait 15 ou 16 ans, j'espère que depuis, il a eu un peu le temps de réfléchir à ce qu'il disait, mais est-ce qu'on n'a pas besoin, nous aussi, de temps en temps, quand on prie, de se souvenir qu'on parle au Créateur? Je dois dire que comme jeune converti, j'ai été impressionné et j'étais envieux de voir comment les gens au micro priaient et parlaient à Dieu. À l'époque, j'avais pas l'impression d'égal à égal, mais d'avoir vraiment un dialogue ouvert, une parole possible. C'était fantastique, moi, je trouvais, de voir ces gens qui s'adressaient à Dieu comme ça. Et c'est vrai, c'est fantastique. Mais il faut quand même se souvenir qu'on a Dieu en face de nous quand on lui parle. On parle au Seigneur, au Créateur de l'univers. Quand je lis sa parole, et là c'est à moi que je parle, est-ce que je lui accorde toute l'attention qu'elle mérite? Ou est-ce qu'il m'arrive de la lire par habitude en disant, mais, alors je ne me le dis pas comme ça, mais ça je l'ai lu 50 fois déjà, et donc je peux passer. Souvenons-nous aussi de Malachie, qui parle des offrandes, mais là l'offrande symbolise tout ce qu'on offre à Dieu, du temps, des renoncements, des efforts pour lui obéir, etc. Et bien que ce ne soit pas un acte d'avarice, mais une preuve d'amour. J'en arrive à ma conclusion. Nous avons vu que dans les Écritures, la crainte de Dieu pouvait signifier la peur, voire la frayeur. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas une forme de peur, ce n'est pas l'épouvante. Elle traduit plutôt une forme de respect, manifester à Dieu un honneur qui lui est rendu, une soumission et une obéissance librement consentie, le renoncement à ce qui déplaît à Dieu. Et s'il y a un verset, une parole que je souhaiterais vous laisser ce matin, c'est ce verset d'Ésaïe 11:2. Jésus respirait la crainte de Dieu. Parce que pour moi, il éclaire ce que Dieu attend de nous. Son amour pour Dieu étant parfait, il n'y avait aucune peur, aucune frayeur, aucune épouvante dans sa relation avec son Père. Mais Dieu utilise encore aujourd'hui la crainte pour nous mener petit à petit sur le chemin de notre sanctification. Aimer Dieu et craindre Dieu sont deux commandements qui visent le même but, s'attacher à lui, marcher dans ses voies. La crainte de Dieu nous pousse à faire des choix dans nos vies et à modifier nos attitudes. Et je vous laisserai ces deux versets de Hébreux montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car Dieu est aussi un feu dévorant. Et Guy soulignait tout à l'heure l'importance de certains termes, certains détails. Le « aussi » ici donne beaucoup de sens, à mon avis, à ce verset. Il n'est pas qu'amour, il est aussi un Dieu dévorant. Amen.